Radio Robot.
La radio qui me botte.
Radio Robot, la radio qui me botte.
Ouais, derrière ton poste, tu as toujours voulu tout savoir sur les robots. Aujourd'hui, des collégiens et des collégiennes de Toulouse t'ont programmé une émission hors du commun.
Il y aura un micro-trottoir, un portrait chinois et des interviews exclusives, mais d'abord, sais-tu ce qu'est un robot ?
Voilà près d'un siècle que le mot robot existe. Il paraît que la première fois, en 1921, dans une pièce de théâtre de l'auteur tchèque Karel Čapek, dont les langues slaves robota signifie travail en tchèque, travail pénible, corvée, dans une pièce, les robots sont des humains artificiels, mais le robot a désigné ensuite des humains mécaniques.
Interview exclusive de Philippe, machiniste à la découverte des rouages des machines, lors de notre visite à la Halo Machine.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Philippe, je suis véritable machiniste à la Halo Machine. Alors, véritable machiniste, c'est-à-dire que je fais la démonstration des machines, je les manipule, je les mets en route, je raconte l'histoire de 10 spectacles auxquels elles correspondent, et occasionnellement aussi, je réponds aux questions sur l'histoire de la compagnie. Mon parcours, en fait, moi je suis métallier au départ, chaudronnier, je fais de la soudure et du travail sur métal, donc. Mais je suis aussi percussionniste, j'ai travaillé dans des fanfares, j'ai travaillé pour des jazz bands. J'ai fait des échasses pour les spectacles de rue, j'ai fait beaucoup de spectacles de rue, du mime, travail sur le corps, travail de comédie. Et tout ça, je retrouve ici un peu mes corps de métier, quoi, différents, dans cette halo machine. Donc ça, c'est ce qui me correspond vraiment. Peut-être que si je peux y rester jusqu'à la retraite, ce serait pas mal.
Combien de temps faut-il pour construire l'araignée ?
Alors l'araignée, une fois que tous les plans et les dessins, les calculs mécaniques ont été faits, il a fallu 1 an et demi, avec 250 personnes, tous les métiers du bois, du métal bien sûr, de l'hydraulique pour les vérins, et un peu d'électrotechnique aussi pour les commandes électrisées.
Et le Minotaure ?
Le Minotaure, il a fallu 2 ans, un peu plus de 2 ans je crois.
Et comment fait-on pour les construire, les machines ?
Alors, il y a tout un processus, bien sûr. D'abord, la conception, c'est le directeur artistique, directeur de la compagnie, qui s'appelle François de la Rosière, qui dessine ces machines. C'est quelqu'un qui a fait les beaux-arts, donc il est dessinateur d'art. Il dessine les machines, il en conçoit déjà un premier aspect mécanique fonctionnel. Tout à l'heure, on pourra passer dans la salle des maquettes que vous voyez en bas. Il y a des esquisses, les gravures donc, de ces machines, et des maquettes aussi qui servent à étudier les mouvements et à étudier les pièces de construction des appareils. Et ensuite, donc, on passe en production véritable dans les ateliers.
Et pour les étapes de construction des machines ?
C'est pièce par pièce, en général, tous les plans ont été calculés. La tête, le buste, des membres... Et l'assemblage est bien sûr fait pour pouvoir tester ensuite les machines. Mais chaque pièce peut être testée aussi une par une avant l'assemblage final.
Et comment manipulez-vous une machine aussi énorme ?
Alors pour l'araignée, il faut 15 manipulateurs. Il y en a un par patte, 3 sur la tête pour s'occuper donc de la tête, des yeux, de la bouche, des crochets, des effets spéciaux de bave et de fil d'araignée. Un manipulateur pour les pédipalmes, c'est-à-dire c'est les membres qui servent à ramener la nourriture pour l'araignée. Un conducteur de tracteur, un aide-conducteur pour les stabilisateurs sur le côté, bien sûr parce que c'est une machine qui fait quand même 35 tonnes, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Et un directeur de manœuvre qui est devant, tout le monde est relié au casque, donc intercom. Et on commande aller à droite, à gauche, patte numéro 2 avec la patte numéro 8. Pour que ça corresponde à un vrai mouvement d'araignée. En amont, toute la cinétique des insectes et des animaux sont étudiées pour pouvoir reproduire le mouvement le plus fidèlement possible.
Et éventuellement pour le Minotaure ?
Pour le Minotaure, alors c'est pareil, il y a moins de personnes nécessaires. Et surtout là, vous voyez sur la piste, avec 3 personnes, pour l'instant ça suffit. Quand on n'est pas en spectacle, on le met en automatique. C'est juste des mouvements assez réguliers, il n'y a pas de virage, il n'y a pas de temps, par exemple, de cabrage du Minotaure comme un spectacle. C'est plus simplifié.
D'accord.
avec trois personnes, un directeur de commande de manœuvre, donc un pilote, un exosquelette, c'est-à-dire que c'est la personne qui, exosquelette, elle est reliée à des capteurs. Quand elle bouge ses bras, le minoteur bouge les bras. Elle a des joysticks au bout des doigts pour manipuler la tête, les yeux, la bouche et les mains. Et on peut en rajouter une quatrième personne pour les effets spéciaux. D'accord. Pareil, effet Venturi, c'est le bruit qu'on entend comme une turbine. Quand vous serez dehors, vous entendrez. Jet d'eau, crachat, postillon, etc.
À quelle occasion sortez-vous les machines ?
Alors les machines, toutes les machines confondues, elles sortent quand il y a des commandes de spectacle. Ici, nous sommes dans une écurie. On accueille des machines, on les présente, on les répare, on les entretient. Elles repartent quand il y a des commandes de spectacle. Donc, il y a le dîner des petites mécaniques, qui est un spectacle dînatoire. L'aéroflora, là, c'est un spectacle d'exposition dans la rue, dans la cité. Les grosses machines, là, c'est des commandes plus sérieuses, c'est des budgets différents aussi. La symphonie mécanique, ensuite, là, c'est un concert de machines et d'instruments plus traditionnels, instruments philharmoniques. Est-ce que j'ai oublié ? Il y a peut-être un petit oubli de ma part, mais bon. Il y a aussi la kermesse de feu et de gourmandise. On aura l'occasion d'aller le voir tout à l'heure.
Avec toute la main-d'œuvre et tous les matériaux, ça coûte combien à peu près ?
Alors là, il faut sortir les chéquiers avec pas mal de zéros. Donc il faut savoir que bien sûr, c'est des commandes ou des métropoles ou des... comment ça s'appelle, des mécènes. Par exemple, le dragon, le cheval dragon a été commandé par les Chinois, c'est un mécène, donc c'est lui qui a sorti ses deniers personnels. Le minotaure, il faut compter 2,5 millions d'euros. Une araignée, 1,5 million. Alors ça fait des gros chiffres. Hein. Après, il faut savoir que, par exemple, la compagnie La Machine, en 20 ans, à Nantes, elle a dégagé 70 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est le côté donc, chiffré de la culture. En France, ici, la culture représente un chiffre aussi important qu'une entreprise du CAC 40.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Alors, j'ai voulu faire ce métier parce que ben, déjà, ça me plaisait de faire du spectacle, donc d'investir la rue. Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles de rue. D'investir la rue et de donner quelque chose à voir ou à vivre de différent du quotidien. Voilà, donc à part l'expression des arts, donc beaucoup de musique, art visuel... Pour moi, c'est plutôt l'art corporel, j'ai fait du mime et de la comédie. Voilà, c'est quelque chose, c'est un plaisir, quoi. C'est un jeu au départ qui s'est transformé en métier.
Peut-on appeler les machines des robots ?
Pourquoi ?
Alors, non. Ici, on n'appelle pas ça des robots, parce que ce sont des machines, plutôt, on pourrait appeler ça des marionnettes. C'est-à-dire que c'est les êtres humains qui font vivre ces machines, qui leur donnent la vie, qui leur donnent le mouvement. Ici, la ligne de direction artistique de François Larosière, c'est le mouvement. Donc, tout ce qui est mouvement donne de l'émotion. Il faut qu'il y ait l'humain derrière pour, bien sûr, créer cet effet. Les robots, il me semblerait que ce soit plutôt déjà des systèmes autonomes, ou alors on peut parler presque d'intelligence artificielle. Vous êtes peut-être plus calé que moi sur les robots.
Et aussi, mais comment vous faites pour sortir les machines ?
Grand portail là-haut, vous voyez. Enfin, je dis là-haut parce que bien sûr, ici, d'ici, on ne voit que là-haut. Il y a une grande porte, c'est tout le mur qui coulisse là. On peut sortir les araignées, on peut rentrer le minotaure quand il baisse la tête. Sinon, après, pour le transport, c'est démonter par éléments. Les araignées, on peut même les recroqueviller sous elles-mêmes. Le cheval dragon, pour l'anecdote, quand il est parti en Chine, pour ne pas avoir le démonté entièrement, on a gardé la tête et le buste. Il a fallu le transporter avec l'avion le plus gros du monde. C'est un Antonov, c'est un avion russe. Donc, la tête s'ouvre de l'avion et on a rentré tout ce morceau de cheval dragon à l'intérieur.
Et combien ça pèse ces machines-là ?
Alors l'araignée avec le tracteur, elle fait 35 tonnes. On peut la désolidariser, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle avait été accrochée en haut d'un building. Ça doit faire une quinzaine de tonnes. Et pour le Minotaure, on est à 47 tonnes. Et la dernière grosse machine qui est sortie, c'est le Dragon de Calais, qui, elle, fait 74 tonnes. mais qui fait plus de 20 mètres de long. Alors, vous avez à peu près des proportions. C'est des gros jouets.
Merci.
Ben, merci à vous.
Et maintenant, Jean, éducateur scientifique, nous dit tout sur les robots.
Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît.
Alors moi je suis Jean Cordier et donc je suis votre prochain intervenant pour la robotique et l'informatique.
Savez-vous de quoi est composé un robot et comment fabrique-t-on un robot ?
Alors de quoi est composé un robot ? C'est un ordinateur et des robots il y en a toutes les formes. Votre téléphone portable, on peut considérer que c'est un robot aussi puisqu'il y a plein de tâches automatisées qui se font à l'intérieur. Ça peut être aussi les robots que vous avez peut-être plus en tête qui ressemblent aux robots de Star Wars. Ou aux robots des chaînes de production. Donc un robot, c'est un ordinateur qui a des missions particulières et il peut se débrouiller, on va dire, tout seul selon les événements qui lui arrivent.
De quand date le premier robot ?
Alors, il y a les robots tels qu'on les conçoit aujourd'hui, il n'y en a pas plus vieux que la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, ce n'est qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale que ça a été, on va dire, introduit via les premiers ordinateurs. Avant ça, il y avait les automates. Et ça, des automates, c'est des machines qui sont faites dans un seul et unique but. Et elles ne peuvent pas s'adapter aux situations. Et ça, il y en a depuis plusieurs siècles, je crois, depuis 1700 et des brouettes.
Où trouve-t-on les robots et à quoi servent les robots aujourd'hui ?
Des robots, on en trouve partout. Et donc, comme j'ai dit, ça va de votre téléphone portable, dans l'industrie, en science, pour aider certains scientifiques dans les laboratoires, pour l'exploration des planètes. Tout ce qui comporte un microprocesseur est un robot, aujourd'hui, même s'ils n'ont pas de bras.
Tout à l'heure, par exemple, vous avez dit « automate ». Mais comment ils faisaient pour fabriquer des automates à l'époque alors qu'il n'y avait pas d'électronique ?
Oui, bah, ils étaient super forts et c'était de l'horlogerie. Alors, renseignez-vous sur Internet sur le mot automate. Il y avait des automates qui écrivaient. Alors, c'était des machines qui ressemblaient à des bustes d'humains et qui pouvaient soit jouer de la musique sur un piano, soit écrire. Et tout ça, c'était qu'avec des pièces d'horlogerie, programmées souvent avec des cylindres, soit perforés, soit extrudés. Je ne sais pas si vous connaissez les petites boîtes à musique. L'air, la mélodie est encodée en fait, sur un cylindre. Avec des petits bouts de métal qui dépassent, et en faisant tourner ce cylindre, c'est une mélodie qui se joue. Et l'information de ces automates, qui était vraiment, c'était de la pure mécanique, il n'y avait pas d'électronique, effectivement, pour l'époque, mais ça pouvait faire exactement... alors, qu'une seule chose, par contre, et ça ne pouvait pas s'adapter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la tâche était faite telle qu'elle était programmée, mais en aucun cas, ça ne pouvait s'adapter. Contrairement à ce que peuvent faire les robots aujourd'hui qui sont basés sur des ordinateurs, qui eux peuvent s'adapter, on peut programmer à l'avance des changements de situation, même inconnus, alors ça dépend des situations, mais le robot peut faire évoluer sa tâche de manière, on va dire, assez nombreuse, enfin de nombreuses possibilités pour lui, pour continuer à faire sa tâche ou faire une autre tâche selon le contexte dans lequel il est.
Et un robot, est-ce que il peut faire que ce qu'on lui dit ou il peut faire tout ce qu'il veut ?
Alors, il peut faire que ce qui a été programmé, mais si c'est bien programmé, il peut faire énormément de choses sans qu'il y ait l'intervention après d'un humain. Et c'est pour ça qu'on emploie des robots dans beaucoup, beaucoup de domaines. Entre autres, l'exploration de Mars et l'exploration des autres planètes sont confiées à des machines qui sont quasiment automatisées. Je dis quasiment parce que, par mesure de sécurité, il y a toujours des choses qui sont faites par des humains. Pour vous donner une idée aussi, le vol des fusées, vous allez aller à la Cité de l'Espace, le vol des fusées est géré entièrement par un ordinateur. Les centaines de personnes qui sont au sol ne sont là que pour contrôler et déclencher l'autodestruction, enfin la destruction au cas où. Mais une fusée se pilote toute seule, par exemple.
En quoi les robots ont-ils changé notre quotidien ?
Donc en quoi ça change notre quotidien ? C'est qu'on a on prend des habitudes, on interagit avec les robots tout le temps et on prend des nouvelles habitudes. Ça nous sert pour faire des recherches, pour travailler. C'est des méthodes de travail différentes maintenant pour pas mal de professions. Sauf que les gens, ils travaillent tous les jours normalement, je pense. Donc ça bouleverse notre quotidien parce que c'est des nouveaux outils qui sont utilisés tous les jours, non seulement pour travailler, pour apprendre.
Du coup, pour rebondir, est-ce que les robots ne créent pas de nouvelles contraintes dans notre quotidien ?
Et effectivement, oui. Ça crée de nouvelles interrogations et ça crée un autre contexte.
Est-ce que les robots nous rendent plus feignants ?
Il faudrait poser la question à un sociologue, je pense. Moi, je saurais pas quoi dire. Moi, pour ma part, je travaille beaucoup avec les ordinateurs. Les robots en informatique sont là pour créer, on va dire, pour faciliter la tâche sur lequel il faudrait peut-être des centaines et des centaines de personnes qui auraient dû travailler sur cette même tâche à répétition. Donc dans ce sens-là, je ne pense pas. Maintenant, il est possible qu'il y ait des domaines où il y ait des personnes qui se reposent un peu trop sur l'automatisation.
À quoi serviront les robots dans le futur ?
La même chose que maintenant, mais avec des tâches plus complexes. Par exemple, tu t'attends à quoi ?
Il y a certains travaux qu'on fait absolument manuellement, où ils pourraient nous aider. Pas forcément le faire à notre place, mais nous aider.
Alors ça y est déjà. Il y a certaines tâches qui étaient jusque-là encore complexes et finalement qui ont été remplacées. Il y a même des domaines de carrément des métiers entiers qui ont été transformés et qui sont devenus maintenant le rôle d'informaticien, alors qu'avant c'est le rôle de technicien. Je prends l'exemple de, par exemple, vous allez au cinéma. Avant, au cinéma, il y avait un projectionniste. Le projectionniste, il savait faire de la mécanique. Il entretenait le projecteur. Il savait manipuler des bobines de film. Et maintenant, le projectionniste, c'est être informaticien. Donc c'est un métier qui a été carrément transformé parce que maintenant, on a la technologie pour remplacer les anciens projecteurs, par exemple à bobine. Donc, dans le futur, peut-être qu'il y a d'autres métiers qui se transformeront de cette manière-là.
D'accord, merci.
Mais pour rebondir, est-ce qu'on ne perd pas en connaissance, nous les humains, avec la programmation toujours plus complexe des robots ?
En tout cas, il y a de la connaissance qui se transforme, ça c'est sûr. Et là, peut-être que c'est une question qu'il faudra aussi poser à l'IRIT. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus les mêmes connaissances. Par contre, il y a des connaissances, des questions et des nouvelles connaissances qui sont apportées, mais qui restent dans le thème de l'informatique et de la robotisation.
Et sinon, d'après vous, c'est quoi une IA ?
Une IA, l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est tout simplement un programme qui peut se mettre à jour tout seul. Si je dis pas de bêtises, ce serait une définition simple. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être d'autres définitions plus précises qui pourront vous être données quand on ira faire cette visite.
D'après vous, pensez-vous que le robot de demain pourra être rigolo, faire des blagues, être humoriste ?
Alors ça, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je ne sais plus dans quel pays il y a une équipe de recherche qui a essayé de le faire, ça. J'en ai entendu parler l'année dernière, ou il y a 2 ans, et qui essaye de créer des robots artistes. Voilà. Je sais que ça s'est fait, mais non, est-ce qu'ils pourront vraiment le faire à notre manière ? Ça, moi, j'en doute, mais bon, pourquoi pas.
Et pour continuer sur la question, est-ce que vous pensez qu'ils auront tous une conscience ? Penser comme des humains.
Ça, alors là, c'est en dehors de mon spectre. La conscience, c'est en dehors de ce que je peux vous donner comme réponse.
Et tant qu'on parle de conscience, est-ce que le robot pourrait être plus qu'une simple machine, mais être
mais devenir, par exemple, notre meilleur ami.
Si votre téléphone portable, c'est votre meilleur ami, c'est à l'utilisateur de faire son choix, ça. C'est pas les robots, c'est pas la machine qui va... C'est pas parce qu'elle va être hyper performante qu'elle ne pourra pas être votre meilleur ami. Ça, c'est à vous de faire votre choix.
D'accord.
Il me semble, en tout cas.
À partir de quel moment on peut faire la différence entre un automate, un robot, une IA ? Est-ce que tu as une idée ?
Les IA peuvent être employées dans les robots. Ce qu'on appelle IA, je pense... donc il faudra vraiment demander à l'IRIT là, pour ce genre de questions. Je sais pas trop mon domaine, mais l'IA, c'est pour faire des robots de plus en plus, on va dire, intelligents, avancés dans leur programme. Et ce, je le répète, l'automate, ce qu'on appelait automate... Est-ce qu'on a... Alors, maintenant, c'est vrai que peut-être que le terme de différence entre robot et automate commence à s'estomper, puisqu'on oublie un peu, mais à l'origine, automate ne fait qu'une seule tâche et ne sait pas s'adapter. L'IA est là pour une adaptation à la situation de plus en plus pertinente de la part du robot.
Bonjour, est-ce qu'un jour les robots seront plus développés que les humains et pourraient-ils prendre le contrôle ?
Du style comme Terminator ?
Oui.
Si on en fait un mauvais usage ? Les robots, en fait, ils deviendront ce que l'on en fait, ce que l'on veut en faire. Je pense pas qu'on ait à s'inquiéter pour l'instant, de mon point de vue.
Ok.
Mais bon, il y a certains pays qui utilisent déjà comme la Chine, qui utilise les caméras avec l'intelligence artificielle pour contrôler, par exemple, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps là, sur ça, pour contrôler les personnes, si elles font une bêtise ou pas, dans la rue. Bah, c'est un contrôle indirect, hein, puisque c'est le régime là, qui fait le contrôle, mais on va dire que l'informatique et l'intelligence artificielle sert un pays, enfin sert le régime qui contrôle le pays.
Nous sommes allés autour de la place Saint-Denis et nous avons posé des questions sur les robots à des inconnus dans la rue.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot puisse faire ?
Créer des choses sans
mon appartement, que j'aurais plus de temps libre.
Bonjour, bonjour,
bonjour.
Peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'habite à Toulouse.
Bonjour, je m'appelle Warren, j'ai 13 ans et je vis à Toulouse.
Bonjour, tu peux te présenter ?
Je m'appelle Rudy, j'ai 13 ans et je vis à Toulouse.
Je m'appelle Siam, j'ai 13 ans et je suis au collège des Pont-Jumeaux.
Je m'appelle Rony, je suis élève du collège Pont-Jumeaux et j'ai 13 ans.
Je m'appelle Elias, j'ai 14 ans et je suis au collège des Pont-Jumeaux.
Bonjour, peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Meltolbia, j'ai 13 ans, je suis au collège Rosa Park.
Oui, je m'appelle Jérémy, j'ai 13 ans, je viens des collèges de Pont-Jumeaux, je suis en 4e.
Je m'appelle Sonia, j'ai 13 ans, je suis en 4e et au collège des Pont-Jumeaux.
Bonjour, je m'appelle Milan, j'ai 13 ans. Je suis en 4e au collège Rosa Park.
Je m'appelle Xavier, j'ai 12 ans et je suis élève au collège Rosa Park en 4e.
Si tu étais un robot, quel robot serais-tu ?
J'en sais rien.
Je serais un robot qui puisse apporter de l'aide à toutes les personnes dans le monde.
Si tu étais un robot, quel robot tu serais ?
Je serais un ordinateur.
Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Je sais pas, n'importe.
Un robot rapide pour que j'ai le temps de faire les choses.
Alors, je serais un téléphone portable.
Si tu étais un robot, quel robot tu serais ?
Un robot, tout ce qu'il y a de plus banal.
Ou un robot qui fasse plein de choses pour que je gagne du temps.
Je sais pas.
Si tu étais un robot, quel robot serais-tu ?
Wally ?
Je serais Nao.
Un téléphone, parce que c'est utile.
Je serais un robot de Terminator.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot puisse faire ?
Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot puisse faire ?
J'aimerais qu'il range ma chambre.
Honnêtement, qu'il puisse aller au collège pour moi, parce que j'ai pas du tout envie de me réveiller, de sortir de mon lit.
Qu'il range tout mon appartement, qu'il fasse tout mon ménage, les lessives, la vaisselle, enfin la totale quoi.
J'aimerais bien que le robot travaille pour moi, que j'ai plus à me lever le matin pour aller travailler.
Qu'il pourra avoir une multifonction.
Qu'il puisse aider les personnes malades ou en difficulté.
J'aimerais beaucoup qu'il puisse tout faire, tout ce que je demande, même mes souhaits les plus chers.
Mais tout ce que j'aime pas faire, en fait, couper l'herbe, entretenir une maison, faire nettoyer la voiture, enfin, toutes ces tâches qui me prennent du temps, qui pourraient me permettre de faire d'autres choses que j'aime.
Bah, tout ce qui est utile dans la vie.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot puisse faire pour toi ?
Qu'il range ma chambre.
Mais que ce serait mon punching ball pour que je m'entraîne à la boxe.
Bah, pour toutes les tâches ménagères.
Qu'est-ce que tu aimerais qu'un robot puisse faire pour toi ?
Aider les gens à prendre conscience de la pollution et être écolo.
D'accord, super.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission.
Radio Robot,
la radio qui me botte.
Radio Robot, la radio qui me botte.